RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Sabine Sessou, Afrique Magazine, Francis Laloupo, Africa numéro 1, et puis Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. Au Congo-Kinshasa, l'opposant Moïse Katumbi dans le collimateur de la justice et Joseph Kabila autorisé par cette même justice à prolonger son mandat présidentiel. En Ouganda, Yoweri Museveni, récemment réélu, a également recours à l'arme judiciaire contre son principal opposant, Kissa Besigye. Enfin, au Nigeria, le bilan du sommet antiterroriste d'Abuja et puis deux lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram retrouvées vivantes cette semaine. D'abord donc ce bras de fer au Congo-Kinshasa entre le pouvoir et l'opposition. Dernier rebondissement donc, le mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi. On écoute Joseph Olengakoy, l'un des dirigeants de l'opposition, commenter cette décision de justice.
C'était prévisible. Vous croyez qu'un dictateur comme Joseph Kabila ici peut entamer une procédure sans aller à la fin? Moi, je crois qu'il fallait se préparer. À partir du moment où l'homme est politique, vous embrassez la carrière politique, il faut se préparer à toute éventualité. C'était prévisible qu'il y aurait un problème d'arrestation. C'était prévisible qu'il y aura l'établissement d'un mandat d'arrêt. Avec ou sans mandat d'arrêt, il y aura arrestation. Parce que nous sommes dans un état de non-droit. Ici, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. Quand vous regardez dans ce qui se passe aujourd'hui dans les maisons des opposants, mais c'est incroyable. Ça veut dire, pour Joseph Kabila, il faut assassiner la vie à tout opposant. Eh bien, on vous arrête sur les lits de l'hôpital, on fait un mandat d'amener. Ça, c'est Joseph Kabila.
Ça, c'est Joseph Kabila, dit donc Joseph Olengakoy. On disait même ici, Sabine Sessou, il y a quelques semaines, que l'opposant congolais Moïse Katumbi était dans le viseur du pouvoir de Joseph Kabila. Mais on était loin de penser, même si Olengakoy dit que c'était prévisible, que le candidat déclaré à la présidentielle allait se voir inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et faire l'objet donc d'un mandat d'arrêt, dit-on, provisoire. Une décision de justice précédée, rappelons-le tout de même, par des semaines de harcèlement et de brutalité policière dans sa ville fief de Lubumbashi.
Oui, il y a une forme de grossièreté dans ce qui se passe et je pense que c'est un peu à double tranchant pour Kabila parce que d'un côté il va avoir le bénéfice immédiat de la mise à l'écart d'un opposant et de l'autre côté il va attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe chez lui. Cette forme de grossièreté qui se passe au Congo et ailleurs en Afrique centrale, elle mène vraiment dans des zones d'insécurité et de crise extrêmement graves.
Louis Kemayou.
On est quand même dans une espèce de loi de série, parce que rappelez-vous avec Jean-Pierre Bemba, qui a subi, non pas de la part de la justice congolaise, mais de la part de la justice internationale, à peu près le même sort. Cette semaine, on a requis contre lui 25 ans, ce qu'il condamne à être hors-jeu pendant très longtemps.
Et là, Jean-Pierre Bemba, qui était le rival, l'ex-rival du même Joseph Kabila.
Et là, on est à peu près dans le même schéma. On a un candidat qui semble sérieux, qui sort de la famille politique du président en exercice, qui a une aura à travers son club de football, le tout-puissant Mazembe, et à travers les liens qu'il a tissés à l'international, que ce soit par rapport au groupe de pression qu'il soutienne, au cabinet qu'il a engagé pour son image. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il a à la fois le trésor de guerre qui pourrait manquer, vu la superficie du pays qu'il faut couvrir pour entrer en campagne. On met à l'écart quelqu'un qui pourrait véritablement représenter une menace et qui est une menace intérieure.
Une menace politique surtout, Moïse Katumbi. Francis Laloupo, on lui reproche d'avoir recruté des mercenaires. En fait, il avait, semble-t-il, un consultant pour assurer sa propre sécurité qui est menacé. Rappelons qu'il a fait appel à la fois d'ailleurs aux Nations Unies, il a fait appel même à la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, pour assurer sa sécurité. Et voilà qu'il tente donc d'assurer cette sécurité par ses propres moyens. Et aujourd'hui, il est donc accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de constitution de bande de mercenaires.
L'idée d'être présumé innocent n'existe pas en RD Congo. À la chance, on mettait à arrêter tous les étrangers qui sont au Katanga, qui sont en situation irrégulière. Dans les entreprises minières, on n'aurait pas fini. On pourrait évidemment imaginer que tous les Américains et autres nationalités présentes au Katanga sont tous des mercenaires. Ce n'est pas sérieux. Je souscris à ce que disait Sabine Sessou. Tout cela est d'une grossièreté inouïe. Monsieur Moïse Katumbi devient la cible principale du pouvoir. D'autant plus contre-productif que le pouvoir en fait désormais un héros national. Cet homme Moïse Katumbi, qui était contesté par une partie de l'opposition traditionnelle, pourrait aujourd'hui créer une sorte d'union sacrée derrière lui parce que il aura réussi à concentrer sur sa seule personne et tout le rejet du pouvoir par la majorité, il faut le dire, des Congolais aujourd'hui. Tout cela devient pénible à Sandio parce que 25 ans après le déclenchement des processus de démocratisation en Afrique, quand on assiste à ce genre de scénario, d'où est-ce qu'on est parti et où va-t-on? On a inventé, peut-être en 50 ans, en deux générations, on a inventé les coups d'État, on a combattu les coups d'État. On a inventé ensuite les fraudes électorales, l'industrie de la fraude, avec une inventivité extraordinaire. On a ensuite, depuis quelque temps, inventé la modification, le changement de constitution. Et aujourd'hui, on invente en RDC, alors c'est un concept inédit, le glissement du calendrier électoral avec arrestation d'opposants et instrumentalisation des cours constitutionnels de la justice pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et c'est une inventivité sinistre de certains régimes. Alors si ces régimes mettaient la même énergie, je dirais, dans le développement de leur pays, eh bien, ils feraient de leur pays de véritables Eldorado.
Voilà, alors Francis vient de le dire, Sabine, la même justice congolaise qui tente donc de neutraliser Moïse Katumbi a donné son feu vert à une éventuelle prolongation du dernier mandat présidentiel de Joseph Kabila, glissement du calendrier électoral parce que le pouvoir n'a pas été foutu de tenir les élections à temps, peut-être d'ailleurs délibérément. Donc cette même justice au plus haut niveau, la Cour constitutionnelle, a donné son feu vert à Joseph Kabila. Joseph Kabila, rappelons-le, arrivé au pouvoir en 2001 à la mort de son père sur aucune base légale, pourrait donc se maintenir au pouvoir 15 ans après sans base élective, sans, je dirais, le consentement du peuple congolais.
Le drame du Congo, c'est que le Congo a construit un début de développement avec le Premier ministre Matata ces dernières années. Il y a eu des avancées remarquables qui vont être bousillées, excusez l'expression, par le président. C'est-à-dire qu'il construit d'un côté et détruit de l'autre. Sur le glissement du calendrier électoral, c'est une crise transversale qui traverse tous les pays d'Afrique centrale. Et tant que les leaders africains de cette zone resteront accrochés à leur fauteuil, de l'Ouganda jusqu'en Angola, en passant par le Djibouti et l'Érythrée, etc., on n'y arrivera pas.
Ça veut dire que la mission de facilitation qui a été confiée à Adem Kodjo par l'Union africaine n'a plus aucun sens. Comme le dit Sabine, c'est plutôt une situation inquiétante. On n'est peut-être plus à vouloir dialoguer, mais on s'achemine à nouveau vers une crise très grave, une crise que l'ONU, qui depuis 1997 a coûté de milliards de dollars en RDC, semble ne pas pouvoir gérer, a priori.
Vous savez, aujourd'hui, le mot dialogue est devenu un mot magique, pour des crises d'ailleurs qui sont fomentées par les régimes eux-mêmes. Si on parle de crise aujourd'hui en RDC Congo, cette crise a été quand même a été ourdi par le pouvoir lui-même. Alors, on provoque des incendies et ensuite on se positionne comme un pompier en disant on va dialoguer. Il n'y a pas de dialogue possible, il suffit simplement d'organiser les élections en temps et en heure telles que l'a prescrit la constitution congolaise. Alors, vous parlez de cette mission de facilitation. Évidemment, M. Edem Kodjo aujourd'hui se retrouve un peu piégé parce qu'avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président actuel à se maintenir au pouvoir au cas où on ne pourrait pas organiser les élections dans les temps, M. Edem Kodjo, si jamais il y avait encore un dialogue, serait juste amené à valider simplement, à prendre acte d'une situation qui est déjà un fait accompli. Peut-être qu'un dialogue permettrait simplement de l'entériner. Parce que cette situation, évidemment, est une situation absolument irritante et agaçante pour, évidemment, les observateurs que nous sommes, mais pour les citoyens que nous sommes également. Parce que tout cela a été prémédité. Et M. Kabila et sa clique n'ont jamais envisagé, on le voit bien, quitter le pouvoir au terme qui était prescrit par la Constitution.
Dernier mot, Louis, seul le peuple congolais, finalement, peut se tirer d'affaire.
Espérons-le. Ce qui arrive à Moïse Katumbi, c'est ce qui est arrivé au Congo d'en face avec l'autre Moïse. Et je crains malheureusement que l'effet de silence que l'on retrouve devant toutes ces exactions qu'on a eues au Congo-Brazzaville, au Tchad et dans d'autres pays, avec un silence complice de la communauté internationale et des voisins, ne puisse produire le même effet également en RDC aujourd'hui, malgré la présence des Nations Unies qui sont quand même là de façon massive.
Afrique Presse et RFI TV 5 Monde passe à l'Ouganda où le président Yoweri Museveni a lui aussi collé sa justice au basque de son principal opposant, Kizza Besigye, qui était également son rival à la dernière présidentielle. On écoute Kizza Besigye juste avant son arrestation, commentant justement les résultats de cette présidentielle remportée dès le premier tour, nous dit-on, par Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans.
Monsieur Museveni, qui a l'intention de s'accrocher au résultat de la commission électorale présidée par Monsieur Kigundu, est dans une position intenable au vu des données disponibles. Par conséquent, toute prestation de serment par M. Museveni est non conforme à la constitution ougandaise car il n'a pas gagné l'élection présidentielle.
Pourtant, Museveni a prêté serment le 12 mai dernier pour un nouveau mandat. Alors, au milieu des années 1990, Sabine Sissou, le président américain Bill Clinton rangeait Yoweri Museveni parmi les nouveaux dirigeants qui, disait-il, allaient redonner un souffle démocratique au continent. Eh bien, une prédiction qui a fait long feu. Apparemment, l'homme fort au pouvoir en Ouganda multiplie les dérives despotiques. Donc son principal opposant est aujourd'hui accusé de trahison, Kizza Besigye, et il a été envoyé derrière les barreaux.
Comme vous le disiez tout à l'heure, la nature revient au galop. Une fois qu'on est au pouvoir, tout change. Le pouvoir corrompt, il corrompt encore plus en Afrique, on dirait. L'affaire de Museveni montre à quel point l'Afrique d'aujourd'hui manque de leaders. Parce que Museveni se pose en leader sous-régional, en dehors des problèmes de politique intérieure de l'Ouganda. Et en fait, il est toujours rattrapé par sa politique intérieure, parce qu'il n'a pas la crédibilité, ni l'envergure, ni absolument rien qui justifie une position de leadership régional. Et donc, il y a cette forme de perversité grave en Afrique qui fait qu'on fait semblant d'être le chef alors qu'on n'est même pas respecté chez soi. C'est comme l'Afrique du Sud de Zuma, il y a des dérives graves et je pense que le côté psychanalytique de la perversité des chefs d'État africains devrait être vraiment décrypté de manière scientifique parce que c'est grave.
Perversité, mais en tout cas populisme, à l'image de ses homologues qui s'accrochent au pouvoir en Afrique, Museveni, populiste, il s'est affiché lors de la cérémonie d'investiture à Kampala avec Omar el-Béchir, ce qui a fait bondir les diplomates occidentaux accrédités qui ont quitté la cérémonie. Il a stipendié une fois de plus la CPI. Il a fait un bras d'honneur aux pays occidentaux qualifiés d'inutiles. C'est le syndrome Robert Mugabe, syndrome populiste d'un nationalisme bidon. En revanche, rien, aucune action finalement en faveur de leur peuple.
Ce qui est terrible dans le cas de figure que nous sommes en train d'étudier, c'est que ça met à nu toute la stratégie post-guerre froide que l'Afrique n'a pas pu élaborer en réalité. Parce que pendant très longtemps, Mobutu, comme de nombreux autres chefs d'État, ont vécu sur la rente de la guerre froide. Leur légitimité, ils n'avaient pas besoin de l'avoir de la population. C'est pas les élections qui la leur conféraient. Et donc aujourd'hui, ils sont revenus à peu près à ces fondamentaux en utilisant aujourd'hui tous les instruments que le droit leur permet d'utiliser, notamment la Constitution. Et donc, on est devant un phénomène qui nous montre toutes les limites du système démocratique. Les élections, ils vont les organiser, c'est évident. Ils vont les truquer et personne ne dira rien. Absolument. Et après, quand on a fait tout cela, qu'est-ce qu'on fait? La population reste prise en otage parce que malheureusement, elle n'a aucun instrument pour virer les dirigeants en place. Ils vivent sur le fait qu'on leur a accordé une caution. Dans le passé, Museveni avait la même caution que les Érythréens à un certain moment, qu'on présentait également Absolument. Comme des leaders très éclairés de l'époque en Afrique. Et aujourd'hui, ils vivent sur cette rente-là, malheureusement. Donc, on n'a pas changé d'époque. Dans la tête de ces dirigeants, c'est la même époque et donc on utilise les mêmes recettes pour humilier et piétiner le peuple.
Évidemment, on a fait son temps, on correspond à une époque donnée. Il faut quand même rappeler que Museveni a inventé lui aussi un concept, il y a 25 ans à peu près, il avait inventé la démocratie sans parti politique. Et il avait théorisé en disant, bon, on peut avoir une démocratie avec un seul parti politique et cette démocratie serait tolérée à condition que tout le monde soit d'accord avec le seul parti, le parti unique, c'est-à-dire le sien qui est au pouvoir.
En fait, il emboîtait le pas à Kadhafi, voilà, finalement.
C'était un peu ça, en plus pittoresque d'ailleurs. Mais cela dit, à un moment donné, vous vous en souvenez, Monsieur Museveni avait séduit à un moment donné une certaine opinion, avec des discours d'ailleurs progressistes, quasi révolutionnaires. Hein, c'était tout à fait intéressant.
Oui, il avait grandi à l'ombre de Nyerere dans les années 70 avec d'autres révolutionnaires.
Voilà. Et au lendemain de la guerre froide, Museveni, comme d'ailleurs Paul Kagame, avait été considéré par la Maison-Blanche, par les États-Unis, comme les nouveaux dirigeants de nouvelle génération. Ah ben, 25 ans après, l'écriture du mur de Berlin, un peu plus maintenant, enfin, ce constat terrible, c'est qu'effectivement, ce sont des gens qui sont restés figés dans une époque donnée, comme des hibernatus, qui malheureusement, tout en étant figés, imposent quand même, je dirais, leur bon droit à leur population. Monsieur Mugabe, qui aurait pu laisser une trace plutôt intéressante dans l'histoire, parce qu'il correspondait effectivement, je dirais, à une époque donnée, aujourd'hui termine sa carrière simplement comme un vulgaire tyran, comme un vulgaire despote. C'est même pas un tyran, c'est un tyranno. Et c'est malheureux. Je voulais juste revenir sur, si vous prenez ce discours, les mots employés par l'opposant de Museveni, vous retrouvez les mêmes mots aujourd'hui chez les opposants au Congo-Brazzaville, les mêmes mots chez les opposants au Tchad.
Absolument.
C'est intéressant.
Ah, et la contestation des résultats. On en vient au dernier sujet d'Afrique Presse, Sabine, ce sommet antiterroriste qui s'est tenu la semaine dernière à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, en présence du président français François Hollande. La première édition de cette rencontre avait été réunie ici à Paris par le même président François Hollande il y a de cela 2 ans, et c'était après le rapt de plus de 250 lycéennes, jeunes femmes, par Boko Haram à Chibok, dans l'ouest du Nigeria. Une bonne nouvelle, Sabine, même si on est loin du compte, si j'ose dire, eh bien, deux de ces lycéennes viennent de recouvrer coup sur coup la liberté cette semaine.
Ça paraît un peu dérisoire, deux lycéennes et tous ces chefs d'État. Moi, je suis toujours choquée par l'espèce d'anomalie, à mes yeux, de voir un président français aller à la rescousse d'un pays comme le Nigeria. Mais au nom de quoi ?
Ou peut-être au nom de la menace globale du terrorisme, Sabine.
Oui, d'accord, mais pourquoi
Paris a été frappé l'année dernière par deux attaques terroristes majeures. Le Sahel est aujourd'hui...
Londres a été frappée, l'Espagne a été frappée, et on n'a pas de chef d'État anglais ni espagnol dans les sommets à Abuja.
C'est quand même à la demande des dirigeants africains, Sabine.
D'accord, mais je suis désolée, pour moi, ça représente une anomalie, et c'est grave, parce que ça veut dire que de grands pays comme le Nigeria, qui devraient être capables, après presque 60 ans d'indépendance, de régler leurs propres problèmes, doivent appeler d'anciennes puissances coloniales.
Or, ce même pays, sous Goodluck Jonathan, sous son prédécesseur, 3 milliards qui étaient destinés à combattre Boko Haram ont été volés par l'armée.
Dans le même temps, on ne peut pas faire la critique à Buhari d'être un mauvais gestionnaire aujourd'hui de la situation. Il est en train d'assainir au sein de l'armée par rapport à toutes les dérives qu'il y a eu, mais il y a quand même de vrais succès qui sont remportés à la fois la coopération régionale et dans la lutte sur le terrain contre Boko Haram. Donc, ça avance quand même. De l'autre côté, il est avec des voisins qui ne sont que francophones et qui ne réagissent que sous la pression de la France. Donc, quelque part, malgré toute sa bonne volonté, il est obligé de passer par le canal triangulaire de Paris pour atteindre Yaoundé, le Niger...
L'anomalie, c'est qu'il y a encore des pays francophones qui appellent toujours le papa parisien, en l'occurrence le chef d'État en place ici à Paris.
Alors aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une diplomatie sécuritaire aujourd'hui. Il faut en prendre acte. Moi, je trouvais plus anormal, il y a 3 ans, quand il y a eu ce sommet à l'Élysée, le sommet sur la sécurité en Afrique à l'Élysée,
le rapt de Chibok.
Voilà, je trouvais ça plutôt embarrassant. Le fait que le président français se déplace, soit invité à aller en Afrique, je pense que dans ce sens-là, ça me semble beaucoup plus acceptable. D'autant que, il faut quand même pas gommer d'un trait l'implication de l'armée française dans l'opération Serval. C'était quand même déterminant. Il ne faut pas gommer d'un trait le fait qu'aujourd'hui, l'opération Barkhane est aujourd'hui le dispositif militaire le plus important dans le Sahel. Donc la présence de la France est une évidence aujourd'hui dans cette région.
Il y avait quand même le numéro 2 du département d'État américain. Rappelons que sur le continent africain, il y a quand même 6000 soldats américains qui luttent principalement contre le terrorisme. Et ces soldats sont déployés au Cameroun, sont déployés au Nigeria et vont être bientôt déployés au Sénégal.
Avec une gestion politique beaucoup plus intelligente de la part des États-Unis qui n'ont pas le même passé colonial et qui n'en font pas les choux gras et qui n'envoient pas Barack Obama à la rescousse du Nigeria de manière archi maladroite. Moi, je pense qu'on a un réel problème et qu'il va falloir le traiter parce que ça va nous retomber dessus, nous, les Français. Je suis française et franchement, ça m'ennuie. Mais il y a un ressentiment anti-français à la base en Afrique qui se joue et qui alimente aussi le terrorisme parce qu'on se mêle des affaires qui ne nous regarde pas. On sous-traite à l'échelle internationale des problèmes de sécurité pour le compte des États-Unis. C'est bien commode d'avoir le copain parisien qui règle les problèmes africains. Mais je pense que ça ne doit pas durer.
Je vais juste aussi relever, puisqu'on est dans le registre des anomalies, ce que je trouve moi moins normal, plutôt anormal, c'est que le Nigeria aujourd'hui, après sa longue histoire que l'on sait, envisage de signer un accord de défense avec la France. Ça, c'est tout à fait anormal.
Ah oui.
Mais encore une fois, alors moi, je fais l'avocat du diable. Hollande, puisqu'il est considéré comme tel. Encore une fois, le terrorisme est une menace globale.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus, parce que nous sommes quand même dans une zone qui a subi les affres de l'après-bombardement de la Libye et de la chute de Kadhafi. Dans la coalition qui a participé à cela, il y a quand même un certain Nicolas Sarkozy qui était président de la France. Donc, les armes qui descendent ne tombent pas du ciel, même si à un certain moment...
L'exploite politiquement et qu'on aille alors en Afrique réparer nos propres erreurs en disant nous avons merdé, excusez-moi, mais nous avons fait une grosse erreur et nous allons essayer de réparer les conséquences. Mais il n'y a absolument pas de discours qui exploite politiquement cette erreur que tout le monde connaît, que tout le monde ressent à fond quand on se déplace en Afrique, on le sent.
Alors, 15 secondes,
je crois que la seule réponse, c'est la mise en place par les États concernés de leur propre dispositif sécuritaire.
Exactement.
Enfin, c'est leur sécurité. Voilà. En cela, il faut rendre hommage à toutes ces armées aujourd'hui, camerounaises, nigériennes,
béninoises,
tchadiennes, bien sûr, qui combattent Boko Haram sans attendre cette fameuse force de projection qu'on avait annoncé il y a 3 ans et qu'on n'a jamais connu.
L'Afrique doit s'émanciper avec son armée. C'est la fin de cette émission. Merci Sabine Sessou, Louis Magloire-Quemayou et Francis Laloupin, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Encore grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.